Jean 1, 29. Le lendemain, c'est un prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. » On parle souvent de l'agneau pascal, parce que nous allons le lire dans quelques instants à l'occasion de la Pâque, un agneau était mangé, mais la Bible nous dit que cet agneau, c'était pour nous parler de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette lecture était nécessaire pour que nous comprenions cette seconde lecture que nous allons faire maintenant, afin que ce repas dans lequel on mangeait un agneau, vous compreniez que c'était d'avance l'idée qu'il nous fallait avant tout nous approprier, nous assimiler, comme par cette consommation de cet agneau, il fallait croire en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, on lira maintenant dans Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Exode 12. Alors, on va lire jusqu'au verset 11, mais d'abord les deux premiers versets. Exode, chapitre 12. Exode, c'est le livre de la sortie. Si vous voulez un peu connaître les livres de la Bible, c'est bien de mettre un mot à chaque livre. Comme ça, ça vous resitue tout de suite le livre. Mais le mot qui va avec Exode, c'est le mot sortie. C'est dans ce livre que Israël est sorti d'Égypte. Exode, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Amen. Alors, nous lirons après que dans ce mois-là, il y a la Pâque, le repas dont j'ai déjà dit quelques mots. Et ce que l'on voit ici, c'est que c'est le départ du calendrier juif. La Pâque, c'est le départ. Pour être chrétien, au départ, il y a la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix, c'est le début d'une nouvelle vie, comme la Pâque était le début d'une nouvelle année. Et chaque nouvelle année, alors nous, le nouvel an, on fait des vœux, et puis il y a Noël qui est différent, puis il y a Pâques qui est différent, mais pour eux, le nouvel an, c'était le mois de la Pâque. Et chaque nouvelle année, à chaque nouvelle année, on repense à l'année passée et on pense à l'année à venir. Et des fois, on essaye de se dire, bien cette année, je vais changer ça, je vais améliorer ceci. Bien dans cette nouvelle année, très rapidement, le dixième jour commençait déjà la Pâque. Et chaque nouvelle année était comme un rappel. On recommençait, mais avec l'agneau. Et dans la vie, chaque jour, chaque mois, chaque année, il faut vivre de l'agneau de Dieu. Il faut toujours démarrer avec Jésus-Christ crucifié. C'est le premier des mois de l'année. Jésus est venu inaugurer, comme cet agneau, ce repas de Pâques inaugurait la nouvelle année, Jésus est venu inaugurer la nouvelle année du salut. Alléluia. Hein, il l'a dit, il est venu pour publier une année de grâce. C'est l'année jubilaire. Dans le calendrier juif, la 50e année était l'année de la délivrance, de la remise des dettes. Alléluia. Et dire que la Pâque, c'est le premier des mois de l'année, c'est dire, au fond, Jésus-Christ serait l'agneau de Dieu qui viendrait inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle année, une nouvelle période, la période de la grâce et du salut. Alléluia. Son nom soit béni. Amen. Alors on va continuer la lecture au verset 3 jusqu'au verset 11, s'il vous plaît. On va voir ici un petit peu la description de ce repas. Chapitre 12, verset 3. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alors, c'est dit pour qu'il n'y en ait pas de trop, vous le verrez après. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, entre les deux soirs, ça veut dire à la nuit tombante, quand le soleil se couche. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur, donc il était entier. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, et ils auront une ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Le bâton de marche, comme ici dans les collines, parfois on en prend un. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Alors pourquoi toutes ces descriptions? On va s'arrêter à ces règles du repas de la Pâque. Parce que vous verrez que toutes ces règles nous parlent d'une façon particulière de Jésus-Christ. Alléluia. C'était un repas qu'on ne pouvait pas manger comme on le voulait. Dieu a dit comment il fallait manger ce repas de la Pâque. Tout d'abord, on ne pouvait pas le prendre n'importe quand. Il y avait une date. Le 10e jour, il fallait amener l'agneau. Alors, certainement dans son enclos, dans sa maison, je ne sais pas. Mais on avait l'agneau. Il était vivant pendant 4 jours. Le 14e jour, on l'immolait, on le sacrifiait. Et là seulement, on pouvait le manger. La Bible dit que c'est que Christ est venu au temps marqué pour nous les pécheurs. De même qu'il y avait un calendrier juif où il y avait une date précise pour manger, pour sacrifier l'agneau de Pâques, Dieu avait programmé une date précise dans son calendrier à lui pour que Christ vienne au temps marqué. Il est venu au bon moment pour nous sauver. Et c'est seulement quand Dieu l'a décidé que Christ est venu. La preuve, cette étoile qui l'a manifestée dans les cieux, les anges qui l'ont annoncé, tout nous montre dans la Bible que Jésus n'est pas venu d'une façon hasardeuse, mais que sa venue était programmée, préparée, datée. Alléluia. Comme cette date de repas de Pâques répétée pendant des siècles. Ensuite, l'importance est donnée sur le fait qu'il devait y avoir un agneau pour tout le monde. Il fallait surtout faire attention, et c'est certainement pour cela que le 10e jour, il fallait déjà avoir l'agneau pour ne pas se prendre au dernier moment et avoir le risque de ne pas avoir d'agneau pour le 14e jour. Un agneau pour tout le monde, un agneau pour chaque famille. Et c'est particulièrement insisté dans ce texte, c'est pour nous dire que Jésus-Christ est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chaque famille, alléluia, c'est pour chaque vie, on en a tous besoin. Et le plus important, chers amis, frères et sœurs, le plus important, c'est d'avoir l'agneau dans sa vie, c'est l'avoir dans sa maison, c'est de ne pas rater ça, c'est fondamental dans cette règle de repas de Pâques. Avez-vous l'agneau? Avez-vous Jésus-Christ dans votre maison? L'avez-vous afin que sa vie et son sacrifice soient utiles pour vous sauver. Alléluia. Il faut s'approprier Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait faire cet effort d'aller chercher l'agneau, de le trouver. Il fallait bien regarder quel il était. On n'offre pas à Dieu n'importe quoi. Dans la loi, il était dit qu'on n'avait pas le droit d'offrir des bêtes malades, chétives ou avec une infirmité. On ne peut pas offrir à Dieu n'importe quoi, on ne peut offrir que le meilleur, parce qu'il est Dieu dans sa sainteté. Alors il fallait bien choisir l'agneau, un an, sans tâche, il fallait sans défaut. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort dans la force de l'âge, à 30 ans. On pourrait dire, mais pourquoi cet homme est mort à 30 ans? Ben parce que l'agneau mourait à un an, quand il était plein de force, plein de vie. Et la mort tombait sur lui. On pourrait être étonné de dire, mais quand même, un agneau en plus, c'est tendre. Hein. Il paraît que ça sent venir quand c'est le dernier moment, et que son regard pourrait toucher. C'est quelque chose de brutal. La croix a quelque chose de brutal. Pourquoi ? Parce que Dieu est brutal, nullement. Ce qui est brutal, ce sont nos péchés. Ce qui est brutal, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons dit. Ça, c'est brutal. C'est pour ça qu'il y a la brutalité de la mort sur Jésus-Christ. C'est parce que c'est nous qui avons la brutalité du péché. Il fallait qu'il prenne sur lui, comme cet agneau. Et le seul qui fut sans défaut, comme cet agneau irréprochable d'un point de vue physique, le seul irréprochable dans son cœur, dans son âme, le seul qui n'ait jamais péché, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le seul vrai sacrifice qui pouvait être offert à la hauteur de la sainteté de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'Apocalypse, il est digne. Alléluia. Le seul sacrifice authentique et digne, c'est celui de l'agneau de Dieu. Et puis, il y avait aussi... Alors, il fallait qu'il soit rôti entièrement, parce que Christ s'est donné entièrement. Hein, la tête, les jambes, même les entrailles de Jésus-Christ. La pureté, l'innocence intérieure de Jésus-Christ. Christ a tout donné. Alléluia. Il est vraiment mort pour nous. Et il s'est livré entièrement. Puis le moment, alors pourquoi ? Quand on lit la Bible, c'est utile de se poser des questions. Quand on demande à Dieu, mais pourquoi tu dis ça dans ta parole ? Ça ne l'offense pas, c'est une quête de vérité. Nous avons soif de mieux comprendre sa parole. Alléluia. Alors pourquoi fallait-il le manger à la nuit tombante ? Au coucher du soleil, tout simplement parce que pour être protégé de la nuit qui allait arriver. Parce que cette nuit qui allait arriver allait être une nuit terrible. C'était la nuit où chaque aîné de chaque famille, du pharaon au plus vil des esclaves, il y aurait dans toutes les maisons un fils qui mourrait. En Israël, il y avait dans toutes les maisons un agneau qui était mort pour les sauver. Mais en Égypte, il y aurait dans toutes les maisons un fils qui mourrait. La nuit de Pâques est une nuit de salut pour les uns et une nuit de condamnation pour les autres. C'est terrible. La Bible dit que Christ est une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, mais une odeur de mort pour ceux qui sont perdus. Je vous en supplie, ne soyez pas égyptiens. Ne mourrez pas, mais soyez sauvés par le Fils aîné de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas dire, mais alors, quand même, ces fils qui sont morts, est-ce que Dieu est amour ? Comment cela ? Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a donné son Fils aîné pour nous. Pour nous. Alors, s'il nous a donné son Fils, il nous donnera tout avec lui. Et nous n'avons pas à douter de sa bonté. Alléluia. Alors oui, il fallait à la nuit tombante pour être protégé. Vous aussi, vous avez besoin d'être protégé. Des ténèbres. Les ténèbres dans la Bible, on peut le voir de plusieurs façons. Les ténèbres de la mort. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous allons tous mourir un jour. Un jour, ce sont les ténèbres qui vont s'abattre sur notre existence. Et il n'y a que l'agneau de Dieu qui protège de ces ténèbres-là. Amen. Alors, mangez-le avant que les ténèbres de la mort ne vous ravissent. Surtout, mettez-vous en règle avec Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Les ténèbres, c'est aussi les ténèbres du diable, de Satan. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous protéger de l'ennemi, c'est le Fils de Dieu qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Enfin, les ténèbres, c'est aussi les ténèbres de la fin des temps. Jésus a dit, la nuit vient, au plus personne ne pourra travailler. La Bible enseigne, chrétiens, que les temps à venir vont être des temps de ténèbres, des temps de tribulation, d'angoisse, où les signes vont se multiplier. Nous n'allons pas vers le mieux, mais dans ces ténèbres, si nous avons l'agneau de Dieu dans notre cœur, dans notre maison, il nous protégera de ces temps de la fin. Alléluia. Et quand je dis qu'il nous protégera, je ne veux pas dire qu'il nous donnera la vie sauve. Il y a des chrétiens qui, tous les jours, donnent leur vie. Mais il protégera votre âme. Il protégera notre foi. Parce que c'est ça le plus important. Alléluia. Dans la fin des temps, les ténèbres des fausses doctrines qui se multiplient, notamment avec tous les écrans, ténèbres de fausses doctrines, l'agneau de Dieu peut nous délivrer. Alléluia. Nous sauver de ces ténèbres. Ensuite, il y avait l'application du sang à la porte d'entrée. Sur les côtés et en haut, tout était peint, entre guillemets, du sang de l'agneau. Je crois que Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alléluia. La porte, c'est Jésus, et le sang sur la porte, c'est le sang de Jésus. Nous chantions, peut-être tout à l'heure on le fera, « Sous le sang, le précieux sang. » Sous le sang, le précieux sang. Je reçois un cœur nouveau. Et j'aime beaucoup. Et presque à chaque fois que je chantais ce cœur, j'imaginais l'Israélite passant la porte d'entrée. Et il passait sous le sang. Alléluia. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ, protégés. Dieu soit béni. Alors c'est une expression, hein. Il ne faut pas avoir un esprit magique, dire « je me mets sous le sang ». Non. Mais c'est une réalité dans la foi. Être sous le sang, c'est être au bénéfice de la croix de Jésus-Christ par notre foi en lui. Alléluia. Sous le sang. Puis il y a le mode de cuisson aussi qui est demandé. On pourrait s'étonner. Le mode de cuisson, pas bouilli, pas poêlé, mais rôti au feu. Rôti au feu. Pourquoi ? Pour avoir une cuisson parfaite, complète. D'ailleurs, il y avait même les entrailles, il y avait tout. Il fallait qu'il soit rôti pour qu'il soit parfaitement cuit. Être certain que la cuisson était terminée. Que l'agneau devait être prêt à être mangé grâce à la perfection de sa cuisson. Comment ne pas se rappeler de l'Épître aux Hébreux qui a dit que Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Amen. Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Entre guillemets, si je reprends l'image, à la croix, Christ, l'agneau de Dieu, a été rôti au feu. C'est-à-dire qu'il a été élevé à la perfection par les souffrances qu'il a acceptées pour nous tous. Vous savez, sur la croix, Christ pouvait invoquer des légions d'anges. Il ne faut pas que vous pensiez que Jésus-Christ est mort sur la croix parce qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'on l'avait attrapé et c'était dommage pour lui. À n'importe quel moment, il pouvait triompher de ses adversaires, se détacher de la croix. Mais il a enduré la croix, la Bible nous dit. Il a enduré la croix, c'est-à-dire qu'il a accepté chaque seconde qu'il pouvait s'en délivrer. Chaque seconde, il a dit « non, je meurs pour le monde ». Il a enduré la croix, il a été élevé à la perfection par ses souffrances et il est devenu comme cela le prince de notre salut. Alléluia. Rôti au feu. Sa personne tout entière, son corps, son âme. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Y a-t-il une plus grande souffrance pour le Fils de Dieu dans son âme que de, pour la première fois peut-être de son existence, vivre cette expérience-là? Il a été abandonné pour que tu ne sois plus jamais abandonné. Alléluia. Mais pour que nous soyons au contraire réconciliés à toujours avec Dieu. Alléluia. Une autre règle, c'est la sixième, l'accompagnement du repas. Vraiment, il ne pouvait rien faire comme il voulait hein, dans ce repas-là. Le repas devait être accompagné de pain sans levain et d'herbes amères. Alors, herbes amères, c'est quoi? Pour se penser, moi, pendant quelques temps, vous savez, au début, on ne connaissait pas grand-chose de la Bible, je pensais que c'était vraiment de l'herbe. Mais en fait, l'herbe amère, c'est, par exemple, des chicons, je fais exprès. Chicons, vous ne savez pas ce que c'est. Ah si, ah bon, ça va, ce sont des endives. Donc, c'est très bon, les endives du Nord sont très bonnes. Alors, accompagné de pain sans levain, et, alors, de chicon si c'est la version du Nord, mais en fait, d'herbes amères. Pourquoi cet accompagnement? Eh bien, un pain sans levain, c'est un pain non fermenté, qui n'a pas le temps de fermenter. La fermentation, ça parle de corruption, de pourrissement, du mal, du péché. Un pain sans levain, c'est un pain pur. C'est un pain qui ne gonfle pas par l'effet de la corruption, de la fermentation, qui ne gonfle pas par l'effet du mal. Christ s'est donné sans gonflement du péché. Il est à la fois l'agneau de Dieu, rôti au feu, et le pain sans levain, parfait, sans aucune corruption ou fermentation du mal. Dieu soit béni. Et il n'y a que lui, que lui. Ensuite, les herbes amères. Ben, les herbes amères, c'est amer. C'est l'amertume des souffrances. L'amertume avant tout des souffrances de Jésus-Christ. J'en ai parlé, je n'y reviendrai pas. L'amertume de la trahison de son ami qui en l'embrassant l'a trahi. C'est l'amertume de son fidèle qui trois fois a juré qu'il ne le connaissait pas. C'est l'amertume de son propre père. Après avoir été trahi de ses proches, il est abandonné de son père. Mais qui peut supporter ça, si ce n'est lui, dans la dignité et la perfection. Alléluia. Pain sans levain, herbes amères. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, surtout pas de reste. Pas de reste. Il fallait bien calculer son agneau pour qu'il n'y ait pas de trop, pas de reste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un repas ordinaire. Quand on mange à la maison, il y a trop, tant mieux, il y aura des bons restes pour demain, on met ça de côté. Voilà, c'est un repas quelconque. Mais le repas pascal, c'est un repas sacré, c'est un repas consacré pour Dieu. Et les choses consacrées, on ne doit pas les vivre d'une façon vulgaire, familiale, et ne pas les considérer. Cela nous parle de la sainteté de la croix. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Et il faut avoir pour ce sacrifice la crainte de Dieu. On parle parfois de la croix de façon légère, même dans certains chants, dans certains cantiques. Mais la croix, c'est saint. L'autel d'airain dans le tabernacle était très saint. Et l'autel d'airain, ça nous parle aussi de la croix. La croix est très sainte. Comme ce repas était très saint et qu'il ne fallait pas le confondre avec n'importe quel autre repas pour manger les restes le lendemain. D'ailleurs, s'il y en avait, malgré ses préconisations, il fallait tout brûler. Personne n'avait le droit d'en remanger. Eh oui, le respect du sacré. La croix nous enseigne le respect du sacré. Et puis la tenue, la ceinture, chaussée et avec un bâton de marche. Alors pourquoi? En fait, il devait être prêt à partir, prêt à s'en aller, tout simplement. prêt à s'en aller en mangeant. Est-ce que ça vous arrive de manger avec vos chaussures, votre manteau et votre bâton? Je ne pense pas. Eux, ils devaient... Alors, je ne dis pas que littéralement, ils étaient comme ça, mais certainement, le bâton était à portée de main, etc. Ils étaient prêts à partir. Prêts à partir. Pourquoi? Ben, nous aussi, nous sommes prêts à partir. Parce que nous croyons que Jésus-Christ va bientôt revenir. Alléluia. Cette nuit-là, c'est certainement la nuit d'horreur pour les Égyptiens, j'en ai parlé. Mais c'est la nuit de délivrance pour Israël. C'est la nuit où tout le peuple de Dieu, poussé même par les Égyptiens, va sortir d'Égypte. Ils avaient raison de se préparer et ils devaient manger ce repas dans la foi parce que Dieu leur dit cela. D'accord, Dieu leur dit ça. Mais ça fait un moment que Pharaon y résiste. Ça fait même un moment que c'est de pire en pire. C'est un moment qu'il y a un bras de fer et qu'il n'y a pas de dénouement. Et là, Moïse dit, c'est cette nuit. Cette nuit, c'est l'agneau. Et habillez-vous. C'est le grand voyage. C'est le grand départ. C'est la sortie. Habillez-vous. Mais concrètement, ils étaient là depuis 430 ans, depuis des siècles ils étaient là. Et malgré Moïse, Pharaon ne lâchait pas. Alors quand ils devaient manger habillés, il fallait le croire. Il fallait le croire. Et nous, nous croyons que Jésus va revenir. Comme ils n'ont pas été trompés cette nuit-là, ils sont vraiment sortis. Ben nous, on n'est pas trompés non plus parce que Dieu ne ment jamais. Et ce que Dieu a fait pour Israël cette nuit-là, Dieu le fera pour nous en envoyant son Fils des cieux. Alléluia. Et nous sortirons. Nous sortirons de ce monde qui ressemble beaucoup à l'Égypte. Et nous nous envolerons avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Son nom est béni. Oui, le chrétien, il ne peut pas trop mettre ses pantoufles. Le chrétien, il ne peut pas trop s'attacher à la terre. Mais pourquoi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus a dit, souviens-toi de la femme de Lot. Non, non, tout ça, ça va être détruit. Nous ne voulons pas nous arrimer ici, mais être prêt à partir. Alléluia. Et puis enfin, la façon de manger. Même ça, la façon de manger, c'était édicté. Comment? Rapidement. C'est bizarre. On s'imagine parfois le repas de Pâques, oh, c'était un moment détendu, un moment prenait son temps, on était en famille. Pas du tout. C'était un repas qu'il fallait prendre rapidement. Toujours pour la même raison, parce que bientôt ils allaient devoir partir précipitamment. Et il fallait qu'ils aient le temps de manger l'agneau avant. S'ils ne se dépêchaient pas, ils n'auraient pas eu le temps de manger l'agneau, parce qu'il fallait partir. Donc ils devaient se dépêcher. Dépêchez-vous de vous convertir avant qu'il soit trop tard. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et nous tous chrétiens, dépêchons-nous de nous nourrir du Seigneur Jésus. La chair, nos combats, il y a beaucoup de choses dans nos vies, vous savez, ça va nous faire rester en bas. Dépêchons-nous de nous nourrir du Seigneur Jésus. De quoi vous nourrissez-vous, frères et sœurs? De quoi vous vous nourrissez? Vous savez que dans la parole de Dieu, il y avait des viandes interdites, il y a des choses qu'on ne doit pas manger. C'est encore valable aujourd'hui, pas les viandes, hein, mais ce que ça représentait. Il y a des mauvaises choses qui vont nourrir nos pensées, nos cœurs, nos âmes, nos vies, nos corps même, nos yeux. Non, non, dépêchons-nous de nous nourrir de Jésus. Alléluia. Parce que nous aussi, frères et sœurs, vous savez quand il va revenir? Moi, je ne le sais pas. Alors peut-être aujourd'hui, il va revenir. Et si le Seigneur revenait aujourd'hui, aurais-tu eu le temps de te nourrir de l'agneau? Amen. Voyez, nous voulons nous dépêcher. Manger le repas à la hâte. Alléluia. Son nom est béni. Voilà. Je terminerai simplement en précisant qu'il y avait une deuxième fête qui suivait la fête de la Pâque. C'était la fête des pains sans levain. Pendant une semaine, les Israélites n'avaient pas le droit de manger du pain fermenté, un symbole de la corruption du péché. Alors ça, c'est très important. Dans la vie chrétienne, il y a d'abord la croix. Le pain sans levain est l'agneau de Dieu, et l'herbe amère, c'est Jésus-Christ. C'est d'abord la Pâque. Mais après la Pâque, nous, on doit vivre comme Jésus. C'est la sanctification. C'est la deuxième fête qui suit la Pâque. La fête des pains sans levain, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, « Célébrons Christ notre Pâque avec les pains sans levain, en enlevant dans notre maison le levain de la malice et de la méchanceté. » Si vous savez, la femme juive, pendant une semaine, devait faire très attention, pas un gramme de levain. Elle devait bien faire attention à sa maison. Devant ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous, cet agneau rôti, nous voulons aussi alors changer pour le glorifier. Et faire attention que dans notre vie, le péché et sa corruption ne viennent pas tout gâcher. Nous voulons célébrer la fête des pains sans levain. 7 jours, 7, c'est un symbole de complétude, de perfection, de voilà, c'est tout au long de la vie chrétienne. Tout au long de la vie chrétienne, nous voudrions être une pâte nouvelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.